Ça bouge dans le secteur des médias au Sénégal. L'élection fin mars 2024 de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, puis la large victoire de son parti, le PASTEF, aux élections mi-novembre, ont rebattu certaines cartes. Au Sénégal, il y a un journal que l'on peut qualifier de quotidien national pro-gouvernemental, dans le sens où ses actionnaires majoritaires sont l'État du Sénégal, des sociétés publiques, des collectivités et des institutions. Son slogan est « Les rayons de l'info » et son titre « Le soleil ». Salut, c'est Steven Jambot, vous écoutez l'atelier des médias de RFI. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, un peu plus si vous faites le choix de nous écouter en podcast. Pour présenter ce quotidien, Le Soleil, et discuter de son positionnement dans l'écosystème des médias sénégalais, je reçois celui qui, depuis le mois de mai 2024, en est le directeur général, donc de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication, la SSPP, éditrice du Soleil. Lamignan, bonjour.
Bonjour Steven.
Bienvenue sur RFI dans l'atelier des médias.
Merci beaucoup de l'invitation, c'est un plaisir.
Quand on prend la direction d'une structure, quelle qu'elle soit, au bout de quelques semaines ou quelques mois, en fonction de sa taille, on est en mesure de faire un rapport d'étonnement. Connaître le vôtre peut permettre de donner un avant-goût de nos échanges d'aujourd'hui. Donc, quel a été votre rapport d'étonnement en prenant la tête de la SSPP Le Soleil ?
Mais c'est d'abord un honneur pour nous, parce que d'être porté à la tête d'une institution aussi prestigieuse que Le Soleil, c'est pas donné. Et donc aujourd'hui, de voir les autorités avoir confiance en notre personne pour nous confier les rênes de cette boîte qui existe depuis 1970, donc on parle de 54 ans d'histoire du Sénégal, hein, qui Le Soleil a toujours été là dans ces moments marquants. Et donc aujourd'hui, de retrouver toute une équipe très dynamique, professionnelle, on va dire parmi les meilleurs journalistes de la presse écrite en Afrique de l'Ouest, hein, et là, d'être là, de venir avec une vision. Et de sentir qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Pour moi, c'est un honneur. Mais on essaie du mieux qu'on peut de mériter cette confiance-là, de travailler en collaboration avec cette équipe qu'on a retrouvée, avec une vision très, très claire, hein, de notre mission. Et on va y revenir sûrement par rapport à tout ce qu'on a envie de faire. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un honneur. Et un honneur qu'on cherche constamment à mériter et à consolider.
Alors, ces dernières semaines, vous multipliez les visites de médias à travers le monde. Vous avez visité La Presse à Montréal, au Canada, puis le quotidien britannique The Times et la BBC au Royaume-Uni en octobre, Le Monde et Le Figaro à Paris ces derniers jours, et enfin RFI et France 24, jeudi 4 décembre, en compagnie de Bernard Nian, le directeur de la publicité, et Moussa Diop, directeur du numérique du Soleil. Quelles sont vos premières impressions ici à Paris?
Bon, les impressions, il y a des choses qui se retrouvent, hein, qu'on voit un peu partout. C'est comment nous, hein, avec quand même l'historique, tout ce qu'on a eu à vivre, qui fait qu'on est beaucoup, beaucoup en retard, il faut le dire, par rapport à le monde des médias où on se trouve actuellement et où on se projette, et de voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Mais ça nous réconforte, parce que la vision, elle est déjà là. Je pense qu'on se dit aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est le digital, c'est les médias dans le futur, ça va être ça. Ça va être comment on va toucher un public beaucoup plus jeune, comment on va diversifier nos contenus. Et de voir qu'aujourd'hui, il y en a qui, nous, ce qu'on a en tête, il y en a qui sont en train de le vivre. Donc la matérialisation, la matérialité des choses, nous, c'est ça qu'on est venu chercher, mais surtout des pratiques, des méthodes de faire qu'on va pouvoir après amener au Sénégal avec l'appui, bien entendu, et on l'espère beaucoup, des autorités, de pouvoir justement mettre cela en branle, de pouvoir aujourd'hui vraiment faire revivre Le Soleil, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chantiers, il y a énormément de choses à faire. Et nous sommes confiants avec cette bonne volonté que nous avons, cette vision que nous avons qui est assez claire, de pouvoir justement prendre ce qu'il y a de meilleur qu'on a vu, donc avec nos différentes pérégrinations, de pouvoir les ramener au Sénégal et de pouvoir, avec l'équipe que nous avons, pouvoir dérouler.
Vous avez été nommé le 15 mai 2024 par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi, à votre avis, vous a-t-il choisi et quelle est précisément la mission que le président vous a confiée ?
Bon, le président, je l'ai accompagné, hein, pendant, je suis un membre du PASTEF, c'est le parti donc qui a amené le président au pouvoir aujourd'hui. Donc je vivais au Canada ces 18 dernières années où j'ai été aussi dans le monde des médias, quoique je suis administrateur scolaire, donc je suis plus dans le milieu de l'éducation. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'on cherche, et ça peut-être même au niveau du Sénégal, c'est une réflexion qu'il faut avoir, on doit avoir des managers. Parce que c'est ça qui est important, donc avec une vision très claire. Et par rapport à cette vision, aujourd'hui, le soleil, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, est détenu majoritairement par l'État du Sénégal, donc c'est le service public. Donc on cherche à comment positionner le soleil comme média de référence, donc en renforçant notre rôle de service public, mais aussi comment on va diversifier nos sources de revenus, parce que ça c'est tout un enjeu, hein, et ça touche tous les médias. Comment on va moderniser les infrastructures, parce qu'il y a énormément de choses à faire, mais aussi le numérique. Donc aujourd'hui, où on est vraiment en retard, comment on va l'impulser, comment aujourd'hui on va investir là-dedans pour être présent dans les différents canaux existants et les différents supports.
On se souvient du slogan du PASTEF durant la campagne, Djoub Djoubal Djoubanti, qui évoque donc l'intégrité de l'action publique, la justice sociale, le progrès pour tous. Le soleil doit-il s'inscrire dans cet esprit ?
Absolument. Et c'est quelque chose, au mot des formules que j'ai répétées même lors de la passation de service qui s'est passée le 10 juin passé, où je dis qu'aujourd'hui, c'est la vision, c'est le mandat aussi qu'on nous donne, parce qu'on a retrouvé un pays aujourd'hui, ce matin, on lisait la presse, on nous parle d'un pays aujourd'hui où on est pratiquement à 40 000 milliards de dettes. Donc un pays où on a retrouvé avec des finances publiques très sombres. Hein. Aujourd'hui, une jeunesse qui a besoin d'espoir. Hein. Un pays où on a besoin d'hommes intègres. Donc le Djoubal Djoubanti, ça va dans ce sens-là. Et ça passe justement par la restructuration de ce qu'on a retrouvé actuellement au niveau de nos différentes boîtes. Hein. Donc que ce soit moi ou les ministres ou les directeurs généraux, après avoir fait l'état des lieux, donc comment on se projette. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on a retrouvées. Par exemple, pour le cas du soleil, une boîte qui est très, très endettée. Donc avec une dette fiscale qui est énorme, avec aussi...
Vous avez dit que la dette du soleil se comptait en milliards
de
francs CFA.
Oui, exactement, parce qu'on ne le payait pas, bon, parce qu'il y avait peut-être des accointances avec le régime passé qui faisait qu'on pouvait laisser ça passer et tout. Et donc tout ça, c'est un héritage. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, toutes les autres directions, quand ils font, dans leurs déclarations de presse, quand ils parlent des audits, hein, des résultats ou de ce qu'ils ont retrouvé, voilà, c'est rien de très rassurant, en fait. Mais ce qui est le plus important, et le Djoubanti aujourd'hui, c'est là le terme, c'est-à-dire comment on redresse. Et donc ça nous met dans une posture de nous dire, est-ce qu'on a les reins assez solides en termes de motivation, en termes d'ambition? Et je pense que c'est quelque chose de largement partagé. Nous savons, et je le dis à chaque fois, moi je vois, oui, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui doivent être vues, redressées, recadrées. Mais il y a une infinité de possibilités. Et moi, je ne vois que ça. Et c'est aussi cet esprit que j'essaie d'insuffler au niveau du personnel, qu'aujourd'hui, le soleil est en retard dans le digital. Donc, on va essayer de nous remobiliser autour de cela, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir. Aujourd'hui, on a des actifs immobiliers qu'on n'a pas suffisamment valorisés. Aujourd'hui, on a la numérisation de nos archives, hein, qui est tout un chantier, parce que depuis 1970 à maintenant, notre centre de documentation est riche en termes de contenu, de tout ce qu'on a pu archiver, c'est toute l'histoire du Sénégal qu'on retrouve là-bas. Et que malheureusement, on l'a pas numérisé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire. La modernisation, comme je le disais tout à l'heure, hein, parce qu'on a des bâtiments qui sont vétustes, comment aujourd'hui on va sortir de la macrocéphalie de Dakar, hein, pour être présent aussi, mais surtout, comment on va être capable de toucher un public, parce qu'on fait du service public. Et aujourd'hui, justement, par la diversification de nos contenus, par la présence dans le digital, ça permet de toucher ce public-là qui ne parle pas français, qui n'écrit pas le français, et qui a tout aussi droit à l'information que quelqu'un qui sait lire et écrire.
On va revenir sur chacune de ces questions, Lamine Niang. J'aimerais aussi vous demander, si j'en crois votre compte LinkedIn, vous avez dans votre bureau une photo du président Bassirou Diomaye Faye. Estimez-vous que le soleil doit être pleinement au service du gouvernement sénégalais, ou allez-vous tenter parfois, lorsque cela sera nécessaire, d'affirmer une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement et de la présidence sénégalaise?
Non, ce qu'il faut dire, et ça c'est une question qui revient, hein, j'ai retrouvé au soleil des professionnels qui savent exactement quoi faire, qui savent exactement quel type de posture avoir, donc au niveau de la déontologie, au niveau de la responsabilité professionnelle en tant que journaliste. Et ça, à ce niveau, je leur fais entièrement confiance. En même temps, je suis directeur de publication. Je pense qu'aujourd'hui, il y a rien à leur reprocher, ils savent quoi faire. Et d'ailleurs, on a vécu récemment, hein, les élections législatives, et j'ai reçu beaucoup de commentaires et de rétroactions très positives par rapport à comment on l'a couvert en essayant d'être le plus équilibré possible dans le traitement de l'information. Effectivement, c'est un média public, mais moi, dans le public, c'est beaucoup plus qu'est-ce que nous, en tant que médias, qu'est-ce qu'on cherche à faire en termes de couverture bien entendu, pour l'État en tant qu'institution, donc les actions du gouvernement, on va devoir effectivement les vulgariser pour montrer ce que l'État est en train de faire. Mais au niveau politique, on essaie de couvrir, de donner de la place à tous les acteurs, en essayant de couvrir aussi, même si il y a eu des dossiers qui ont été faits, pas nécessairement dans le sens de dire on glorifie ce que l'État fait, mais de montrer, par exemple, récemment, il y a eu des crues dans le nord du pays, ça a été couvert, une équipe a été envoyée là-bas pour montrer la détresse de la population. Donc quand il y a des sujets qui touchent le social, on y va à fond. Et donc l'objectif, à mon avis, au contraire, c'est même d'aider l'État à pouvoir savoir ce qui est en train de se passer et de trouver des solutions par rapport à ça. Donc on a une totale liberté par rapport à nos contenus, mais effectivement, on va le faire quand même avec beaucoup de responsabilité.
Voilà, donc vous pensez que vous avez justement un devoir de responsabilité en tant que média de service public dans l'écosystème médiatique sénégalais.
Tout à fait.
Entrons dans le détail, Lamine Niang, des axes de développement, de modernisation que vous entendez mener au sein du Soleil. Déjà, vous avez parlé évidemment de la numérisation. Vous avez lancé un nouveau site internet lundi 2 décembre, lesoleil.sn, avec une liseuse intégrée, donc genre de PDF amélioré qui permet de zoomer et d'optimiser l'affichage des articles. Vous essuyez un petit peu les plâtres, j'ai l'impression, puisque je n'ai pas tous les jours réussi à me connecter au site du Soleil ces derniers jours.
Ah bon? C'est une information qu'on va remonter au niveau des services techniques. Ouais, je sais qu'il y a eu ces dernières heures quand même de la maintenance qui se faisait sur le site. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est... et on a travaillé fort. Hein. Comme je l'ai dit dans mon édito il y a 3-4 jours, on aurait pu se précipiter pour sortir un site d'information pour dire que le Soleil a son site. Parce que quand je suis arrivé, c'est une des premières préoccupations qui a été posée sur la table. Comment ça se fait qu'une société, une institution aussi prestigieuse que le Soleil n'est pas... de site internet. Et oui, il y en avait, hein, et d'ailleurs, ça faisait partie dans les années 90, l'un des premiers à avoir le site, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi, donc c'est tombé à l'eau. Et aujourd'hui, on a vu hein, cette floraison de sites internet qui existent, où, bon, des fois, on peut y mettre... Bon, des fois, il y a beaucoup à dire et à redire, mais nous, c'est comment, dans notre ligne éditoriale et de la responsabilité qui fait la crédibilité et qui fait ce qu'est le Soleil, on essaie d'avoir un site internet fonctionnel. Mais mieux, dans cette idée, c'est comment aujourd'hui, avec, vous en parliez tout à l'heure, ce PDF-là avec la liseuse, donc améliorée, de permettre à toutes les couches de la population, d'où ils se trouvent, de pouvoir avoir accès au journal. Donc via un abonnement. Et donc ça permet par exemple ceux qui sont dans la diaspora, qui ont été très nombreux à nous réclamer la disponibilité du journal aujourd'hui, de pouvoir l'avoir, et puis vraiment à des coûts très modiques, à la portée de toutes les bourses. Donc, de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Vous parlez de la diaspora. Qui lit aujourd'hui Le Soleil au Sénégal? Avez-vous un portrait type de votre lectorat?
Bon, il faut le dire, j'en parlais tout à l'heure, c'est aujourd'hui, on a toujours dit au Soleil que c'est le journal des décideurs. Donc, il y a un certain élitisme. Et d'ailleurs, que moi, j'essaie de casser aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pour ça que récemment, on a, pour la couverture de deux événements majeurs hein, religieux au Sénégal, le Gamou et le Magal, on a décidé de sortir des magazines en y incluant l'arabe, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas été à l'école classique française, mais qui ont fait des études, qui sont aussi instruites, mais en arabe. Et donc on s'est dit, mais moi je fais du service public, pourquoi on ne va pas les intégrer, pourquoi on ne va pas les concerner par rapport à ce contenu-là? Et donc on a fait des résumés en arabe. Et ça a été très très bien reçu. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on porterait, comme je l'ai dit, le site vient d'être lancé, on n'a peut-être pas une idée claire du nombre, tout par rapport au site, mais il faut le dire, beaucoup, ceux qui nous lisent, donc c'est vraiment une population très instruite, hein. Mais on va essayer de, et justement c'est l'ambition et ce qu'on a donné comme instruction et comme vision pour la rédaction web, de vulgariser davantage et d'être le plus accessible possible. Parce que pour moi, ce public-là, le terme public, ça a tout son sens, c'est un adjectif. Hein. Quand on dit information, mission publique, et c'est un tout. Donc il nous faut être le plus inclusif possible et ne pas simplement se limiter à des... Voilà, à l'élite intellectuelle.
Vous avez, je crois, une licence en langues étrangères appliquées.
Oui.
Et du coup, les langues vous tiennent à cœur, j'imagine. Ouais, vous venez de parler de l'arabe.
Oui.
Le Soleil a-t-il nécessité de se développer dans d'autres langues?
Vous êtes bien renseigné, si vous
C'est mon métier.
Oui, l'arabe, oui.
Voilà, cette ambition de se développer dans d'autres langues
que
le français.
Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Encore une fois, c'est toujours en lien avec cette mission de service public. Donc, d'être capable aujourd'hui de dire, mais parce que c'est aussi ça, dans les médias, et ça, j'en appelle constamment aux acteurs de la presse, des médias au Sénégal. Donc, c'est de connaître aussi nos notre public. C'est quoi ses besoins? Quand on fait de la diversification, c'est pas de faire parce que tout le monde le fait. Moi, la vision, elle est claire. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je dois pouvoir donner de l'information aux Sénégalais, à la maman du coin qui a sa petite échoppe, ou le cultivateur, peut-être, qui a son téléphone, mais qui est capable un petit peu de se débrouiller via Facebook,
WhatsApp,
ou via WhatsApp, ou YouTube. Mais moi, je dois lui donner de l'information via WhatsApp. Effectivement, quand on parle des podcasts et autres, l'idée, c'est d'abord cela. Donc, c'est vraiment d'être le plus inclusif possible, de pouvoir toucher toutes les couches de la population. Et là, on aura rempli fidèlement notre mission de service public.
Alors, ça nécessite aussi de le faire à prix doux, ou en tout cas d'avoir des tarifs et une progressivité des tarifs qui fait que l'accès à ce média soit accessible. Et en même temps, vous voulez repenser votre modèle économique, le diversifier, etc. C'est compliqué tout de même comme équation, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Mais quand même, on a quand même réussi à les... prix proposés sont à la portée de tous. Hein. On parle de 790. Bon, je ne sais pas trop par la conversion en euros ce que ça donnerait, mais on parle de 790 CFA pour l'abonnement par semaine, hein, 3000 francs pour le mois, 38 000 pour toute l'année. C'est vraiment pas beaucoup. Et surtout par rapport à la diaspora qu'on veut toucher. Et puis, ce qui est intéressant, et que d'ailleurs, tout à l'heure, il nous le disait au monde, ce qu'ils n'ont pas réussi et que nous, peut-être qu'on a réussi aujourd'hui, c'est comment intégrer les différentes méthodes de paiement. Donc, via les Wave, Orange Money,
Voilà le micro-paiement.
Et aujourd'hui, c'est intégré sur le site, ce qui fait que tout le monde peut l'avoir.
Dans les axes de développement du Soleil, vous voulez, je cite, « améliorer la gouvernance et la gestion de l'entreprise en mettant en place une direction saine et transparente avec une gestion financière et opérationnelle qui sera particulièrement revue ». Là, je vous cite, quels sont vos chantiers là-dessus?
Les chantiers aujourd'hui, c'est de réfléchir d'abord par ce qu'on a trouvé. On attend d'avoir les audits de nos finances publiques. C'est en cours. Donc nous, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a, où sont les trous, où l'argent a été dépensé, qu'est-ce qu'il y a lieu de redresser. Je pense qu'à la suite de cela, on aura aussi des recommandations qui vont nous servir pour nous dire exactement peut-être à quel niveau on doit activer nos leviers. Mais c'est surtout la rationalisation, parce qu'aujourd'hui, je donne juste l'exemple de l'électricité, hein. Souvent, c'est des petites... des petites pratiques qu'on perd, de laisser le clim continuer à fonctionner alors qu'on n'est pas au bureau, d'éteindre les lumières, hein, de rationaliser par rapport à l'utilisation de l'eau. Donc il y a tout cela, mais aujourd'hui c'est d'être capable aussi, toujours à travers la digitalisation, de faire que la ponctualité, comment on va faire qu'ils vont être là à l'heure, finir le travail à l'heure, en tout cas faire le service demandé, mais comment on va être capable aussi d'être le plus transparent possible, parce que ça c'est tout un enjeu, et ça revient au job dont on parlait tout à l'heure par rapport aux finances publiques, les dépenses qu'on fait, à chaque fois d'être capable constamment de garder ce lien de confiance-là avec le personnel pour de renseigner, donner de l'information sur tout ce qu'on fait, parce que, comme je le dis à chaque fois quand je rencontre les partenaires sociaux, on n'a absolument rien à cacher, et on joue franc-jeu et transparent sur tout.
Lamine Niang, certains responsables politiques plaident parfois pour la privatisation des médias publics, pour faire des économies. Le PASTEF, on le sait, a été élu sur un programme qui prévoit de redresser les comptes, de faire preuve de transparence, de faire des économies, de mieux répartir l'argent. N'avez-vous pas peur qu'un jour, les autorités souhaitent dire les médias publics coûtent trop cher à l'État et donc aux contribuables, nous allons les privatiser?
C'est là justement où nous, notre modèle est, à mon avis, hein, on est en train de le tester, on voit les résultats et pertinents. C'est-à-dire comment aujourd'hui on va essayer du mieux qu'on peut de nous détacher de plus en plus de l'État, de l'aide de l'État, parce qu'il y a la rémunération du service public, parce qu'on fait du service public et il y a du prix par rapport à cela. Et donc, c'est comment on va être capable, avec ce qu'on a, de réfléchir sur chaque potentiel. Je donnais aujourd'hui l'exemple du foncier. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'a toujours laissé comme ça. On peut le rentabiliser, ça pourrait être des sources de revenus supplémentaires.
Vous avez des grands hangars dans la zone industrielle de Dakar.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, on n'a pas encore valorisé comme il faut. Ça, c'est un chantier. On a une unité d'impression, hein, une imprimerie, le journal édité, imprimé, tiré au soleil. Et récemment, lors des élections législatives, on a réussi à tirer 17 millions de bulletins. C'est le soleil qui l'a fait, ça nous donne des marges. On a du matériel complémentaire jusqu'ici qui n'était pas installé. Donc, matériel d'imprimerie. Donc, on va devoir faire. Il y a le massico, donc, qui permet de faire la coupe de papier qu'on a récemment installé. Donc il y a tout cela, le numérique bien entendu, hein, on l'a vu dans nos différentes rencontres, ça revenait constamment. Donc ça génère des revenus, surtout par rapport aux vidéos.
D'avoir des formats publicitaires nouveaux et diversifier vos sources de revenus.
Diversifier, mais surtout l'événementiel. Hein. Donc ça aussi c'est très important. Aujourd'hui, comme je le dis, il y a beaucoup de chantiers. C'est sûr qu'on ne va pas se passer tout de suite de l'aide de l'État. On en a besoin, on en a même fortement besoin. D'ailleurs, on demande même à ce que ça soit augmenté. Mais que ça soit nous ou ailleurs, l'objectif, c'est aujourd'hui comment on va être dans la réflexion, dans la créativité, dans l'innovation. Parce qu'on va aller vers ça. Les finances publiques, aujourd'hui, sont très, très chargées. Aujourd'hui, il y a des secteurs, nous, on en a besoin, mais il y a des secteurs qui en ont fortement aussi besoin, hein, l'éducation, la santé, parce que c'est des services essentiels. Mais nous, comment derrière aussi, on va appuyer l'État? Et moi, je l'ai en tête, et c'est assez clair, comment on aide l'État? Et ça va aussi dans ce sens-là, de trouver des sources de revenus alternatives.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Mon invité est Lamine Nian, directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication, la SSPP, éditrice du Soleil. Les journaux, chaînes, sites et radios sénégalaises avaient été invités dernièrement à s'enregistrer sur une plateforme en ligne, Déclaration Média Sénégal. Mardi 2 décembre, le ministère sénégalais de la Communication a publié une première liste de médias, je cite, « conformes au code de la presse ». Pour l'instant, seuls 112 dossiers ont été validés sur 380 déposés, parmi ceux-là, celui du Soleil, évidemment. Certains patrons de presse dénoncent tout de même une sélection politique. Les autorités sénégalaises se défendent, disent qu'il n'y a pas de médias d'opposition au regard de la loi et qu'il faut nettoyer le secteur des médias pour mieux adapter les aides publiques dont l'enveloppe globale devrait considérablement augmenter, signalons-le. Il y a plusieurs absents dans cette liste, je viens de le dire, mais un rattrapage est en cours. Que vous inspire ce processus, Lamine Nian ?
Ben, c'est un processus tout à fait normal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les pays au monde, on a besoin pour une presse, on en parle depuis tout à l'heure, libre, responsable, et qui a besoin justement d'être soutenue, que ça soit encadré. On ne peut pas, pour l'État, on parlait tout à l'heure du jubel jubanti, on ne peut pas le faire n'importe comment. Donc, on doit savoir à qui on donne de l'argent. Et pour revenir sur cette situation-là, il faut le dire, la presse sénégalaise, ces dernières années, on va le dire, est sortie d'une nuit noire avec tout ce qu'on a eu à vivre en termes d'emprisonnement sous l'ancien régime de journalistes, de torture lors des manifestations, mais aussi cette aide publique dont on parlait, qui était distribuée comme ça à la tête du client, selon si on est proche ou pas du régime. Et donc, il y avait tout cela, c'était un fourre-tout. Et justement, l'objectif de museler, d'étouffer toute voix de contestataire sous l'ancien régime, surtout ce qui concernait le parti PASTEF et son leader, l'État avait appuyé l'existence et la création de plusieurs journaux qui n'avaient du matin au soir qu'un seul objectif, c'est-à-dire de salir la réputation d'un homme public, un opposant, donc de diffamer, de diaboliser. Mais aujourd'hui, on a besoin d'assainir cet espace-là, le paysage médiatique. On a besoin de savoir qui appartient à... Bon, quel média appartient à qui. On a besoin de savoir qui fait quoi. Et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est comme on l'a fait avec les finances publiques, de pouvoir le faire également au niveau des médias. En aucune façon, c'est pas une question de vouloir museler la presse ou de dire qu'on choisit à tel ou tel ou ce qui... Non, c'est pas ça du tout. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est passé dans un processus très transparent, avec d'abord la mise en place d'une plateforme dédiée pour s'enregistrer avec ce qui était demandé comme information à fournir. Ensuite, il y a un comité qui s'est réuni, donc pour déterminer un comité en plus mixte, hein, où il y avait le CORED, qui est le tribunal des pairs, donc où il y a des journalistes, le CNRA, où il y a les différents ministères, hein, un peu la société civile, et donc tout cela qui ont décidé, avec les dossiers reçus, de consulter et de déterminer, par exemple, bon, quels médias répondent aux exigences du code de la presse. Et d'autres qui ne le sont pas, on leur a dit, ben, il vous manque tel ou tel papier à fournir sur 72 heures et puis donc on a besoin que vous soyez. D'ailleurs, le terme utilisé, c'est la conformité. On ne parle pas de bannissement ou de médias à exclure. C'est
mais
pas
en,
ça du tout.
En quoi était-il urgent de le faire maintenant, alors même que la mue de l'instance de régulation des médias, le CNRA en ARCA, n'a pas encore eu lieu, que le code de la presse est sans doute à dépoussiérer, n'aurait-il pas été préférable d'attendre un petit peu que ces processus soient arrivés au bout avant de faire cette liste?
Oui, on peut toujours réfléchir et voir au niveau de la temporalité, hein, des actions prises par le gouvernement ou par certains ministères. Mais à mon avis, aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de faire, en soi, c'est de voir c'est quoi la positivité de la chose et en quoi c'est pertinent de le faire. Parce qu'encore une fois, on le voit, il y a chaque matin, c'est une pléthore de une qu'on voit, alors qu'il y en a pour certains, c'est juste une. Et ça permet de dire tout ce qu'on veut. C'est que le journal, vous le cherchez, mais vous ne le trouvez pas.
Oui, mais il y a tout de même des choses qui peuvent poser question. Par exemple, j'ai regardé dans les conditions qui sont demandées pour un site d'information en ligne, il faut que son directeur de la publication ait 10 ans de carte de presse. Lorsque l'on est un jeune qui sort d'une école comme l'EGICOM ou comme le CESTI à Dakar, que l'on a 2 ou 3 ans d'expérience, que l'on est en mesure de lancer un média, on n'est pas en mesure de remplir les exigences de cette loi. Ça pose problème tout de même pour
la
liberté. Oui,
clairement, c'est sûr qu'on peut toujours discuter des critères, mais à partir du moment où les critères, ont été établis, et surtout, à mon avis aussi, c'est là comment on va assainir cet espace public ou n'importe qui. Parce que aussi, il faut culturellement voir d'où ça part. Et comme je le disais, c'est que politiquement, il y a une situation qui a fait qu'il y a eu cette floraison de journaux où des gens derrière, avec leur argent, mettaient en place un journal, n'importe qui était derrière, et puis pouvait faire tout ce qu'il veut.
Avec une polarisation et une approche très partisane.
Absolument, absolument, pour en faire ce qu'on veut. Et c'est aujourd'hui, c'est une réalité qui est là, et reconnue par les acteurs. Et d'ailleurs, c'était une demande des acteurs de la presse. Donc à partir du moment où on passe à l'action, on ne peut pas non plus revenir. Maintenant, peut-être on peut y avoir un peu plus de souplesse, c'est à discuter. Mais l'idée derrière, en soi, elle est très bonne. Et l'objectif qui est poursuivi est reconnu. Bon, à part si on n'a pas été sur cette première liste-là, donc cette liste provisoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée est bonne et qu'en soi, ça permet aujourd'hui de mieux encadrer la presse.
Petite parenthèse, signalons aussi des initiatives de médias qui tentent de ne vivre que des abonnements et des dons de ses lecteurs. Par exemple, la Maison des reporters, dirigée par Moussa Ngom, que j'avais déjà reçu dans l'atelier des médias, qui lance actuellement une campagne de dons en ligne. Lamine Nian, vous avez un profil international, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vécu en Suisse, plus récemment au Canada. Ces derniers temps, vous avez rencontré les ambassadeurs au Sénégal de nombreux pays, l'Inde, les Pays-Bas, l'Arabie Saoudite, la Finlande, je crois, mais aussi la Chine. Vous avez signé un accord avec l'agence Xinhua, Chine Nouvelle, agence de presse d'État du Parti communiste chinois. Quels sont les termes de cet accord et qu'en attendez-vous ?
D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, depuis notre arrivée, c'est comment on positionne le soleil au niveau institutionnel. C'est un média reconnu par son sérieux, par sa crédibilité. Et les ambassadeurs qui y viennent, justement, c'est voir comment, en termes de collaboration et surtout de partenariat de contenu. Donc, comment on peut aujourd'hui leur donner plus de visibilité. Et ça renforce aussi les liens. Et d'ailleurs, un des moments phares, c'est quand on passe au centre de documentation avec ces ambassadeurs et qu'ils voient un peu, depuis 70 à maintenant, tout ce qu'on a pu conserver comme archives. Ils sont très fiers de cela et ça donc permet aujourd'hui de raffermir les liens entre le Sénégal et tous ces pays. Donc par rapport à l'agence chinoise, c'est une proposition qu'ils nous ont faite par rapport à du contenu. Donc c'est un partage de contenu, donc via la plateforme où ils diffusent de l'information. C'est un peu comme l'AFP le fait.
Non, c'est pas comme l'AFP, Lamine Nian, je suis désolé. C'est une agence d'État du Parti communiste chinois. Donc ils sont là avec un agenda. Ils n'ont pas de garantie d'indépendance, ni en termes de financement, ni en termes de gouvernance. Donc en gros, vous nous dites que vous pourriez reprendre des dépêches de l'agence chinoise sur le site du Soleil.
Mais on peut le reprendre justement à partir de l'analyse qui a été faite et de la validation qui a été faite par le
directeur.
Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est très important de revenir à ce qu'est le Soleil, le professionnalisme de ces journalistes, leur crédibilité. On ne peut pas se permettre de reprendre n'importe quoi. Moi, j'en reçois, je ne citerai pas de nom, mais des propositions de publication d'en haut et qu'on se dit non, ça ne peut pas passer au Soleil. On a une ligne éditoriale assez claire qui ne peut pas se permettre le tout. Mais encore une fois, on se permet quand même, avec ça, c'est une question de souveraineté, c'est une question d'autonomie, c'est une question de responsabilité, de pouvoir travailler avec n'importe qui, mais tout en gardant ce sérieux, tout en gardant cette responsabilité.
Saluons aussi, d'ailleurs, vous avez dit vouloir vous appuyer sur les talents qui composent la rédaction du Soleil. Le 3 décembre, le journaliste Babacar Gaye Diop a été premier prix de la catégorie presse écrite de la 3e édition du prix africain du journalisme d'investigation, le PAJI, organisé par Médias et Démocratie. J'imagine que ça vous fait plaisir.
Ah oui, énormément plaisir, c'est sa 3e distinction, et il y en a d'autres, Gossin Diata aussi qui a reçu, et il n'est pas le seul. D'ailleurs, quand on a fait une petite cérémonie pour Gostin, avant Babacar, c'est là qu'ils ont commencé à nous dire qu'il y a d'autres journalistes qui ont reçu des prix, mais malheureusement ça n'a jamais été magnifié. Donc nous aussi, dans notre investissement sur le capital humain, donc renforcer les liens, mais surtout valoriser tout ce qu'on a comme potentiel, on essaie constamment donc de montrer en fait ce qui se fait de bien, une petite tape dans le dos pour montrer qu'on a bien fait. Oui, c'est toute une fierté et ça montre encore une fois hein, que c'est le soleil, que c'est pas n'importe quoi qui y passe et qu'on réfléchit par rapport à la pertinence du contenu, mais aussi la qualité du contenu. Et on est respecté pour cela.
Et c'était un format enquête d'ailleurs, saluons-le. Ouais. J'ai cru lire que la pagination du soleil est amenée à évoluer prochainement. Vous êtes à 24 pages et vous souhaiteriez passer à 32.
Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un dynamisme qui est là, il y a un regain d'intérêt par rapport au journal depuis notre arrivée, Dieu merci. Et l'objectif, c'est comment aujourd'hui on va continuer à donner plus de contenu avec des dossiers, avec des enquêtes, parce que jusqu'ici, il faut le dire aussi, c'est qu'on fait beaucoup de compte rendu. Je pense qu'on est appelé à évoluer, donc à aller dans le fond des choses, donc à pouvoir avoir donc des portraits, à pouvoir faire des grands entretiens, à pouvoir faire donc des enquêtes comme Babacar, parce qu'on a des spécialistes là-dedans. Donc des reportages, donc grand air, donc qui va permettre aussi de ne pas se limiter à Dakar, d'aller un peu comme ce qu'on a vécu pendant cet hivernage, pendant l'été, donc à feuille d'hivernage où on a été au fin fond du Sénégal dans certaines localités, ça a été fortement apprécié par les populations. Donc c'est vraiment de donner plus en qualité aux populations.
Sortir de Dakar, aller ailleurs aussi, plus loin en profondeur au Sénégal, Lamine Niang. Derrière ça, il y a aussi un enjeu, celui de la distribution de la presse. Peu après votre prise de fonction à la tête de la SSPP, vous avez visité les locaux de l'ADP, l'agence de distribution de presse, qui est une filiale du Soleil. Vous avez l'ambition, je cite, de la faire renaître de ses cendres et vous annonciez un audit. Où en est cet audit ?
Oui, c'est toujours en cours. On n'a pas encore reçu les résultats de l'audit. Bon, parce que c'est les deux, hein, c'est l'audit du Soleil ainsi que de l'ADP. Mmh. Et on commence par l'audit financier parce qu'aussi, comme vous le savez, on a trouvé, je le disais tout à l'heure, donc des états au niveau des finances pas très faciles. Donc on y va toujours de façon progressive.
Mais l'idée, c'est que vous accélériez la diffusion de la presse à travers le Sénégal.
Et même dans le processus de digitalisation dont on parle aujourd'hui, on est en réflexion pour avoir ce qu'on appelle des casiers connectés, où justement la distribution va se faire de façon automatique et justement via les méthodes de paiement qu'on a, les micros de microfinance, Wave, Orange Money. Donc ça, quelque chose peut-être même qu'on n'a pas encore trouvé ici et peut-être qu'on va être les premiers à les lancer. On va les tester. Il y a une phase pilote. Là, on y réfléchit pour l'avoir à la gare de Dakar où c'est 80 000 passagers tous les jours. Et c'est donc dans la distribution. Quand je parlais de la relance de l'ADP, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas faire comme avant, parce que c'est beaucoup de charges, c'est énorme, ça demande énormément de mobilisation de ressources pour peut-être peu de résultats. Donc aujourd'hui, on réfléchit à d'autres modèles qui existent, les kiosques également, effectivement. Ça, je pense que Bernard, qui m'accompagne, il est à fond là-dedans, il aime tout ce qu'il voit comme kiosque, il se dit, bon, c'est ça qu'on devrait avoir, parce qu'en même temps, au niveau de la régie publicitaire, de faire de la pub, donc ça permet de générer plus de sous. Donc il y a tout cela qu'on a actuellement en réflexion. Donc par rapport à la distribution, oui, c'est un autre chantier avec d'autres méthodes de faire.
Et un partenariat, par exemple, logistique avec La Poste, un autre avec Air Sénégal, pour rendre le journal accessible, le Soleil accessible partout à travers le pays.
Oui, ou même Press Reader qu'on a rencontré hier, on parlait de distribution numérique dans les hôtels, dans les aéroports et autres, donc avec ça aussi et d'autres d'ailleurs en France qu'on va essayer peut-être au niveau de la collaboration et des partenariats à voir, donc comment nous accompagner dans la distribution dans des endroits où le Soleil n'était pas jusque-là.
Vous croyez fondamentalement au papier et vous aimeriez, vous rêvez peut-être même un jour d'avoir des rotatives aussi à travers le Sénégal.
Ah oui, clairement. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours l'accès à l'information au niveau national et l'équité territoriale par rapport à la distribution. Ça, ça nous tient à cœur. Et donc, encore une fois, pour permettre à tous les Sénégalais, parce que pour moi, c'est quelque chose de personnel. Hein. Quand je parle de diversification de contenu, quand je parle d'accès à l'information, donc c'est aussi de permettre aux Sénégalais qui est à Fongolimbi, qui est à Matam et dans des coins les plus reculés de l'avoir, ce journal-là. Aujourd'hui, si on a la possibilité d'avoir des rotatives installées un peu partout, ça permet plutôt donc d'envoyer le BAT directement, puis de faire l'impression sur place, puis que l'accès au journal... Parce qu'il y a aussi le papier, oui, vous le disiez, c'est vrai, on y tient encore, on veut que le papier continue d'exister. On a vu des modèles, moi, dans mes rencontres, par exemple, la presse au Canada, ils ont fait la transition complète.
Ils sont tout iPad maintenant.
Mais le Monde Figaro, on a encore le papier, n'est-ce pas? Et donc, même si on fait moins de tirages ou que c'est les abonnements numériques qui sont beaucoup plus importants, mais ça reste que... Et ça, toujours dans l'idée que tout le monde doit avoir accès, il y en a qui ont peut-être encore la couverture. Donc de l'Internet n'est pas total encore au Sénégal. Il y en a certains, peut-être même s'ils ont l'Internet, mais le débit n'est pas énorme. Donc pour eux, on leur donne cette alternative de pouvoir disposer toujours du journal papier. Donc c'est un peu cette idée qu'on a, que de permettre aux Sénégalais un peu partout de disposer et d'avoir le journal.
Lamine Niang, vous êtes aussi un des vice-présidents du GPEAO, le groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest. Vous êtes en charge des relations extérieures. Avez-vous pour ambition aussi d'avoir une expansion sur la sous-région pour le soleil, de rayonner davantage?
Ah oui, clairement. Et clairement, ben là, c'est aussi un des enjeux et c'est quelque chose que Moussa qui m'accompagne, il parle tout le temps de soleil diaspora. Donc quand on parle de soleil diaspora, c'est exactement ça. C'est comment aujourd'hui on va toucher les Sénégalais, pas seulement les Sénégalais, les Africains de façon générale, en tout cas tous ceux qui ont envie de découvrir le soleil, que ce soit dans la sous-région, mais que ce soit aussi à l'extérieur, un peu partout dans le monde, de pouvoir l'avoir. Bon, la semaine prochaine, je serai à Abidjan, justement, on va revenir sur le GPAO parce qu'on vient juste de... Je viens d'être nommé, j'ai même pas encore rencontré le bureau. On va peut-être réfléchir maintenant sur ça va être quoi les axes stratégiques, puis ça va être quoi la vision des choses qu'on a. Mais l'idée, c'est ça, donc au niveau panafricain, de pouvoir faire des échanges, de pouvoir aussi, selon là où on se situe, pouvoir voir ce que les autres font et de pouvoir partager nos contenus.
Lamine Niang, je vous remercie beaucoup.
C'est moi, Steven. Merci pour l'invitation.
Je rappelle que vous êtes directeur général de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication, la SSPP, qui édite le quotidien sénégalais Le Soleil, que l'on retrouve sur lesoleil.sn. Merci d'être venu sur RFI dans l'Atelier des médias pour votre premier entretien avec un média international. Je vous dis à bientôt.
Merci, Steven. À bientôt.
C'est la fin de cet atelier des médias que vous pouvez comme toujours écouter dans une version plus longue en podcast. Lamine Niang et moi-même sommes restés quelque chose comme 40 minutes ensemble en studio. Choisissez pour nous écouter la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore RFI Pure Radio. Je remercie Aurel Charlieu qui a assuré l'enregistrement de cette émission et Simon De Creuse qui l'a réalisé. Si vous voulez nous écrire, voici notre email atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.